Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre très attendue et riche série « L'écologie aux petits oignons ». La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, notre invité fait honneur aux plantes, aux formes incongrues dans son jardin, entre jeux de mots et culture insolite. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs?
Didier Catry, alias Jardidier. Les enfants m'appellent toujours Jardidier. J'ai 64 ans. J'ai fait l'école buissonnière parce que je recommencerai qu'à partir de la troisième au collège où j'avais eu un professeur qui s'appelle Monsieur Dujardin, qui m'a toujours passionné quand il passait ses diapositives sur les pays à l'étranger, notamment sur l'Égypte. Et du coup, après, comme il faut choisir un métier pour après, j'étais tiraillé entre le voyage, le jardin, et du coup, mes parents m'ont inscrit à l'école horticole de Genève. Donc là-bas, j'ai fait mon BAA, brevet d'apprentissage agricole, l'équivalent d'un CAP. Après, mon BEPH horticole et PTAOH horticole. Et puis, j'ai été faire beaucoup de stages chez les maraîchers. Et donc, ça, c'était une super expérience. Et ensuite, je suis parti faire le service de remplacement agricole pour remplacer les agriculteurs qui partaient en vacances ou pour les congés maternité pour les mamans. Donc, ça aussi, c'était très intéressant. Et j'ai travaillé aussi au service de la protection des végétaux à l'époque à la cité administrative de Lille pour reconnaître le feu bactérien des rosacées. C'est une bactérie. Et mon travail était de tourner dans les campagnes, observer toutes les haies d'aubépines, parce que le feu bactérien, il rentre par la floraison des aubépines, et pour protéger ainsi les arboriculteurs avec les pommiers, poiriers, enfin toutes les rosacées. Et après, j'ai été faire l'armée pendant un an, où j'étais d'ailleurs jardinier de la caserne, involontairement, mais je l'ai été, et j'étais bien content. Et ensuite, je suis rentré, et j'avais envie de faire un BTS en culture légumière sous serre à Perpignan. Donc là, mes parents n'étaient pas très d'accord parce qu'ils disent « Qu'est-ce que tu vas aller faire des chicons là-bas à Perpignan ?» Je dis « Je n'ai pas envie de faire des chicons, j'ai envie de voir, de connaître déjà le sud de la France. » Donc je suis parti là-bas un an. Et puis dès que je suis rentré, où j'ai une très bonne formation, et j'avais envie de partir à l'étranger. Et c'est là que j'ai fait un stage pendant 6 mois dans les kibboutz en Israël, près du Liban, où j'ai appris justement la culture du coton, toutes les plantes vertes qui étaient exportées beaucoup vers l'Allemagne. Et après, je l'ai fait 2 mois dans un moshav chitoufi. Et après, je suis parti en stop traverser le canal de Suez pour aller en Égypte et descendre toute la vallée du Nil. Super, très très beau. Ça a donné une notion de la biodiversité des plantes qu'on trouve aussi bien dans le nord que dans le sud. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une petite filleule qui s'appelle Joséphine. Mes parents m'ont demandé d'être le parrain. J'ai dit OK. Et puis Joséphine, elle adorait les plantes, les végétaux. Et donc, quand elle pouvait, elle venait en vacances parce qu'elle est en Bretagne. Et donc, quand elle pouvait, elle venait en vacances chez moi et on allait dans les centres de loisirs pendant les vacances. Donc, Joséphine m'a dit, parrain, fais-moi un jardin. Alors, j'ai dit, OK, Joséphine, je vais faire ton jardin. Et si je peux le faire pour elle, je peux le faire pour les autres enfants. Voilà comment est née l'association Le Jardin Voyageur, la Brouette de Jardinier. Cette association l'a créée le 29 février 1996. On a tourné dans les écoles maternelles, primaires, et puis les centres de loisirs, et le week-end, les grands publics, comme style Terre en Fête à Arras, toutes les grandes fêtes rurales, j'y participais, les fêtes des moissons, pour faire jardiner les enfants. Voilà, donc tout est parti d'une petite Joséphine qui m'a dit « Parrain, fais-moi un jardin » et l'association a été créée.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en trois mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
On part d'une graine, on part d'un embryon, et puis on voit évoluer les choses jusqu'à la phase finale, puisqu'on n'est que de passage. On a un rôle de transmission entre les générations qui ont eu cette expérience pour pouvoir le transmettre aux plus jeunes qui, eux, découvrent l'éveil, la nature. Et ça, ça a été une expérience formidable pendant les 27 années que j'ai travaillé au Jardin Voyageur. C'était de donner l'envie de créer son petit jardin aux enfants. Et ça, c'était formidable. À chaque fois qu'on faisait le rallye du petit jardinier avec les 7 épreuves, les enfants devaient fermer les yeux et je passais devant leurs narines et sentir. Bon, à chaque fois, c'était la menthe qui sortait, mais il n'y avait pas que la menthe. Il y a la sauge officinale, il y avait le fenouil, le céleri. Il y a plein d'odeurs qui sont typées de chaque plante aromatique. Et ça, c'était génial parce que même pour dire une petite anecdote, une tiotte, je l'avais fait sentir du céleri et elle me dit « Ah, mais ça sent mamie !» Bah, je dis « Oui, mamie, elle devait certainement faire beaucoup de soupe au céleri pour papy. » Enfin, voilà. Donc ça, c'était les petites anecdotes pour les odeurs. Une couleur. Bah, quand j'étais petit, j'adorais le bleu. Et quand je suis grand, j'ai gardé un peu le bleu-vert. Le vert parce que l'espérance, la nature, la renaissance, et ça c'est important. Et c'est vrai que les couleurs, les enfants adorent les couleurs. Ils avaient toujours des brouettes avec des couleurs différentes selon les familles des brouettes. Ils avaient toujours les chapeaux de couleurs différentes et des tabliers de couleurs différentes parce que les couleurs c'est important. Un son, je dirais les oiseaux, surtout au printemps quand ils se réveillent. Et aussi, c'est ce que j'adore, c'est le clapotis de l'eau qui tombe d'une cascade. Ça, c'est le silence. Et puis, on entend un peu les insectes, les libellules qui passent. Et ça, c'est adorable. Surtout après une journée dans les écoles où les enfants, ils n'arrêtent pas d'hurler dans les oreilles. Tout se passe beaucoup mieux le soir. Je suis assis devant cette petite cascade et là, ça me permet de me reposer. Voilà, j'ai une texture. J'aurais envie de dire le craquant d'une pomme quand on croque et la texture, il y a plein de choses. J'ai envie de dire aussi les mamans radis, parce qu'en fin de compte, quand je ramène les radis, je ramène une maman radis avec les grandes pousses, avec les siliques, c'est là où il y a les graines dedans. Pour eux, c'est des cacahuètes et on les écrase et on enlève les petites graines. Donc avec les enfants, surtout les tout-petits, ils adorent ça. Ils mettent le papier d'un côté et la graine de l'autre. Ou quand c'est les mamans poireaux, on voit les graines noires et puis le papier. Et donc ça fait partie des textures du toucher que nous, on connaît, la dextérité, comme on dit maintenant. Mais les enfants, ils sont très sensibles là-dessus.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets?
Maintenant, comme je disais, je suis jardinier retraité. Mon projet, c'est de refaire des voyages à l'étranger, partir à l'étranger, notamment l'hiver, certainement en octobre 2025, où j'ai envie de partir en Australie pour avoir un été australien pendant que nous serons à l'hiver. Après, c'est surtout la Nouvelle-Zélande où c'est très verdoyant. Il y a beaucoup de rhododendrons, beaucoup de moutons. J'ai envie de faire aussi, c'est la Polynésie française, notamment la Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Enfin, et voilà. Et là, on parle français, heureusement pour moi, parce que mon anglais est pas super. Et donc ça, ce sera aussi pour m'enrichir dans le côté des plantes que je ne connais pas de l'hémisphère sud. Donc ça, ce seraient mes projets. Mes projets ont été bien sûr transmis en partie par toutes les écoles que j'ai auparavant faites, puisque j'avais 10 000 enfants par an que je voyais, beaucoup d'écoles de Douai, d'Arras, de Fourmis là-bas dans le bas du Nord, et jusqu'à sur la côte, au Touquet, le Boulogne, Calais. C'était l'école Saint-Joseph là-bas à Steinwerck. Il y avait l'enseignant, il m'a dit c'est bien, il ne connaissait pas. Il me dit, vous allez voir au fond de la classe, il y a un enfant qui ne veut pas trop participer. Bon, c'est pas grave, on verra. Je présentais ce que je faisais d'habitude. Et puis, je voyais l'enfant qui a rapproché de chaise en chaise. Après, on est allé dehors. Alors là, il était métamorphosé. Et puis, je suis revenu 2 mois après pour faire l'assiette végétale. Et là, le maître, il me dit, je ne comprends pas. Le tio, là, qui était au fond, il a pris possession du jardin. Il va devenir horticulteur, paysagiste, je ne sais pas, mais... vous lui avez déclenché, bah, c'était le bon moment, c'était là où il avait besoin de nature, il voulait saturer du français, du calcul, des maths. Et donc, voilà, ça me fait très plaisir. Et surtout, je transmettais la saisonnalité, c'est-à-dire manger des légumes de saison, des chicons, c'est pour l'hiver. Si on a des pissenlits, c'est maintenant qu'on les mange, parce que les dents de lion, comme on les appelle, hein, Taraxacum dendronis, c'est une balayeuse dans les intestins. Ça permet de nettoyer toutes les impuretés qu'on a mangées pendant l'hiver.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
L'humain peut apporter beaucoup au vivant parce que nous faisons partie de cette biodiversité. Nous, on n'est qu'un élément comme l'eau, comme la terre, comme les végétaux, les insectes, les animaux. On n'est pas supérieur aux autres. On a tous son rôle à jouer, important. Parce que si demain il y avait plus d'abeilles, ben qui dit plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de végétaux. Donc tout le monde a son importance. Il doit être assez intelligent pour comprendre et savoir rester plus modeste et savoir se rester au plus bas comme les autres. On est tous les éléments les uns dans les autres pour former cette grande chaîne. Et la nature nous le dit de toute façon. On est d'abord, elle est toujours la gagnante, hein, la nature. Hein, nous on ne fera pas tout. Et par exemple, les plantes indicatrices. Je vais prendre l'exemple de mon tiogardin à moi, à Tsinguin. Eh ben, il y a des plantes qui poussent. Ah, ça, c'est de la prêle. Bon, ça, c'est signe que la terre, elle est acide. Enfin, le pH, il est acide. Tiens, je vois des plantains. Ah, c'est le sol, il est trop tassé. Parce que la plante s'adapte à la terre. Par exemple, le thym. Le thym pousse bien dans les allées. Il refuse de pousser dans le jardin parce qu'il faut une terre tassée. Comme son origine, ça vient de la montagne. Hein. Donc, le thym, il pousse sur du rocher. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on plantait du thym dans les écoles avec les enfants, je disais, on creuse, on met des cailloux et on plante le thym au-dessus. Alors, parce que je leur disais que le thym a besoin d'un bon fond. Toutes ces plantes indicatrices sont très importantes pour indiquer aux jardiniers pourquoi elles sont là, parce qu'elles ont un rôle à jouer. Bien sûr, on dit l'expérience est un peigne pour les chauves, mais les enfants, le fait déjà qu'ils aient entendu tout petit les interventions comme ça extérieures dans les écoles, c'est quelque chose de très enrichissant. D'ailleurs, j'ai intervenu beaucoup dans tout le Nord-Pas-de-Calais grâce aux interventions, je faisais des assiettes végétales, en collaboration avec la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, qui me faisait faire intervenir l'hiver, notamment à des moments où c'était creux, je faisais des assiettes végétales. Et on l'a fait pendant 3 ans. Et on a vu l'amélioration de l'enfant qui commençait à goûter, qui commençait à découvrir. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est l'éveil, c'est une découverte. Et mais le fait d'une manière ludique, et amusante, et ben c'est génial, quoi. C'est une super transmission des deux côtés.
Quand un chagrin m'éprouve, il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM, portée sur la nouvelle directive de l'Union européenne, la directive pour la surveillance et la résilience des sols. Partant du constat que 70% des sols européens sont dégradés, cette directive pose l'objectif de faire en sorte qu'à l'horizon 2050, 100% des sols soient sains. Concrètement, pour l'instant, cette directive ne demande que l'évaluation de l'état des sols à l'échelle européenne. Cependant, les enjeux identifiés et les multiples travaux scientifiques portant sur le sujet sont susceptibles de pousser cette surveillance à l'action dans les années à venir. Car, rappelons-le, la perte des services essentiels que les sols fournissent, tels que la fourniture de denrées alimentaires ou d'aliments pour les animaux, les fibres, le bois, la régulation du climat, de l'eau ou encore des parasites, conduit irrévocablement à des catastrophes naturelles, des sécheresses et à une insécurité alimentaire si on ne s'y intéresse pas de plus près. La surveillance dont parle cette directive ne concerne donc pas que les sites contaminés, mais tous les sols. La directive cadre cette surveillance en proposant toute une batterie d'indicateurs, dont des indicateurs obligatoires pour tous les États membres. Ces indicateurs, mesurés tous les 5 ans, visent à surveiller certaines menaces qui pèsent sur les sols, telles que l'érosion, la compaction, la perte en matière organique, la salinisation, l'acidification, la réduction de la capacité de rétention en eau des sols, mais aussi l'artificialisation des sols ou leur imperméabilisation. Ces indicateurs sont accompagnés de valeurs critiques à ne pas dépasser selon les types de sols, leur usage ou le climat. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Pour moi, le mot le plus important, c'est le respect. Le respect de la terre, le respect des autres, le respect de la nature. Tôt ou tard, tout ce qu'on sème, on va le récolter. Et si c'est pas du bien, ce sera pas forcément le bien non plus qu'on va reconsommer plus tard. Donc, moi, je suis partant à 100% pour revenir à la forêt-jardin, enfin, la permaculture. Tout ça, c'est super, mais il faut un léger accompagnement, mais un tout petit peu de réflexion et forcément, on va respecter tout ça. Pour moi, c'est important de toujours respecter la nature, ce qu'on y a mis, les intrants, et du coup, tout ce qui va ressortir pour être consommé. J'espère qu'il va passer. Bien sûr, il faudra des années pour redresser, mais on dit qu'il faut une génération pour construire, une génération pour maintenir, une génération pour détruire. Donc là, je ne sais pas dans laquelle on arrive vraiment à se situer, mais il faut toujours essayer au maximum de toujours maintenir et puis toujours essayer de progresser.
Les choux-fleurs se dandinaient avec... On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Il y a un livre que j'ai adoré, que je ne connaissais pas. D'ailleurs, c'est une maîtresse d'école qui me l'a présenté. C'est le livre « C'est Tistou, les pousses vertes » de Maurice Druon. C'est un livre qui est adapté pour les enfants, hein, bien sûr, pour l'âge à partir de 9 ans, mais c'est trop bien. Et là-dedans, je me suis retrouvé, et j'ai lu à l'âge de 55 ans, mais j'ai adoré ce petit livre, qu'on voit très rarement d'ailleurs maintenant dans les bibliothèques. Alors, auparavant, nous, on produisait un petit livret qu'on appelle un jardalmanac, hein, pour les adhérents de l'association, qu'on publiait 4 numéros par an pour donner les conseils à planter, à consommer avec les jardins de saison. Il y avait la jardipresse, enfin, il y avait plein de choses. Donc, ça, c'était des bons... Pour moi, ça a été des choses importantes. Ce que j'aime bien, moi, c'est un peu en dehors, c'est tout ce qui est théâtre de rue. Et là, j'ai envie de dire, ici prochainement, le 3, 4 et 5 mai, à Vieux-Condé, il y a le Théâtre du Boulon qui fait des théâtres de rue, mais c'est trop génial. Et beaucoup basé sur la nature. Je vous invite à y aller. En plus, c'est gratuit. Ça se déroule dans les rues de Vieux-Condé, comme à Saint-Omer aussi. Hein. Il y a aussi un grand festival des arts de la rue. La bonne soupe de légumes. Que fais-tu là, monsieur le poireau ? J'ai très chaud. Que fais-tu là, chou ? Je boue. Moi, je m'appelle Tomate et je me gratte. Petite pomme de terre, tu viens de la terre ou de la mer ? Et toi, carotte, où vas-tu avec tes bottes ? J'accompagne les autres légumes pour qu'ils fument. Ensemble, nous ferons la bonne soupe de légumes. Radis et mirabelles. Quand on est tout petit, on peut cueillir des radis, des oignons et des échalotes, des salades et des carottes. À 5 ans, on se hisse à la hauteur des cassis, des groseilles écarlates, des framboises et des tomates. Quand on devient un homme, on peut cueillir des pommes, des prunes, des mirabelles, les bras levés vers le ciel, anonyme. Et surtout, profitez bien de la nature et soyez heureux, en bonne santé.
Tu y as pêché où, baobab, acajou? Cet épisode aux côtés d'un amoureux des comptines parfumées et des légumes généreux prend fin. La semaine prochaine, le vivant réclame notre attention sur de nouvelles feuilles de choux fraîchement cueillies.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.